Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h43, à suivre, l'antenne vous est ouverte, 0826-300-300 pour débattre avec Françoise Degoy, Elisabeth Lévy, Eric Revel. En attendant, la revue de presse avec Benjamin Glaise et Étienne Jernel, directeur du Point, sera avec nous.
Oui, du football au lendemain du match France-Portugal, forcément, avec une même formule à la une de beaucoup de journaux, par exemple de La Montagne et du Parisien aujourd'hui en France, c'est « Mission ». Accompli.
Ben oui, un match nul de partout face au Portugal, synonyme pour les Bleus de la première place de leur poule, réputée la plus dure de la compétition, et d'un huitième de finale plutôt abordable face aux Suisses. L'autre mission accomplie, elle est pour Karim Benzema, auteur d'un doublé hier soir, l'attaquant madrilène qui a transformé un pénalty puis marqué dans le jeu grâce à une très belle ouverture de Paul Pogba. Paul Pogba, d'ailleurs, joueur le mieux noté ce matin aux côtés de Karim Benzema, 7 sur 10 dans les colonnes de l'équipe.
Ah oui.
Et dans un match intense et à rebondissement, Karim Benzema a inscrit ses premiers buts en équipe de France depuis plus de 5 ans, souligne d'ailleurs La Montagne, ce qui inspire ce titre à la une de Sud-Ouest, le double effet Benzema. Un résultat également à la une de Nice ce matin qui l'annonce, l'horizon se dégage maintenant, la Suisse au prochain numéro pour l'équipe. Ce sera lundi soir, donc contre la Suisse à 21h, à vivre en direct sur Sud Radio.
Benjamin, on a beaucoup parlé de l'euphorie du déconfinement ces derniers temps, mais et pourtant, attention, l'été ne sera pas à la fête. C'est ce que nous dit et nous prévient la République des Pyrénées.
Ben oui, les grandes fêtes en Béarn et Soule ont été annulés cette année encore, même dans les villages, les festivités sont rares. Alors pour se consoler, vivez la vie de château, c'est ce que nous propose carrément le populaire du centre, populaire du centre qui nous indique qu'une rapide recherche sur les sites internet immobiliers de la région permet d'identifier au moins une dizaine de châteaux en vente dans la Haute-Vienne, comme celui des Grands Chézeaux qui donc fait la une, 2 étages, des petites tourelles aux angles, un joli perron plein de verdure. Bon, attention tout de même, racontent certains experts dans le populaire du centre, il faut prévoir un certain coût pour les travaux, parce que ça coûte cher à entretenir.
Ah oui, puis alors on ne sait jamais jusqu'à où ça va nous embarquer du côté des travaux.
Ouais,
merci mon cher Benjamin Glaise. D'un mot aussi, il y a la une du Figaro, l'Europe sceptique face au ton conciliant d'Erdogan, ça nous conduit à la une du Point également, avec Étienne Jernel qui est avec nous, directeur du Point. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Oui, parce qu'il y a une enquête en une du Point sur l'organisation des loups gris. Ce sont les soldats d'Erdogan en Europe.
Oui, d'ailleurs, pas seulement en Europe, parce que les loups gris ont été actifs en Syrie, contre les Kurdes notamment, en Irak, dans le Haut-Karabakh, aux côtés des Azéris, pour chasser les Arméniens. Mais c'est une organisation qui est de plus en plus influente au sein même de l'État turc et qui a des ramifications partout en Europe, notamment là où il y a une population d'origine turque, en Allemagne, en Belgique et en France. Parce qu'on a quand même assisté à des scènes. On est en France, à Décines, près de Lyon et à Valence, où on a vu des militants pro-Erdogan, des loups gris, s'en prendre à des Arméniens, des Français d'origine arménienne, recherchant les noms se terminant en Lyon, vous savez, sur les boîtes aux lettres, s'en prenant à des commerces arméniens. Alors ça nous rappelle quelque chose en France. C'est quand même quelque chose de terrifiant. Et il y a une branche politique aussi, parce que il faut savoir que, par exemple, une association pro-turque, pro-Erdogan, qui s'appelle COGEP, qui est dirigée par un ancien loup gris, laquelle association, d'ailleurs, a donné un prix des droits de l'homme à Élie Plenel, ce qui en dit long, d'ailleurs, sur Plenel.
Ouais. Non mais c'était une enquête particulièrement intéressante, quoi. Donc évidemment sur ces loups gris, même si nous avions l'ambassadeur il y a tout juste une semaine de Turquie en France qui nous disait non, il y a beaucoup de fantasmes autour de cela et Erdogan n'est pas forcément derrière.
C'est évidemment un mensonge.
Ouais.
Ça s'appelle un mensonge. En fait, c'est un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que Erdogan est derrière et puis en même temps ils sont influents au sein de l'appareil politique turque. Ça, c'est une force politique en tant que telle, un peu sous-jacente. Alors, vous savez, moi, l'ambassadeur de Turquie, il peut dire ce qu'il veut, mais moi, personnellement, je suis menacé de 5 ans de prison en Turquie si j'y mets les pieds. Donc,
Merci, Étienne Jernel, pour cette enquête. D'un mot aussi, parce qu'il y a un article qui a retenu mon attention, c'est un berger qui est chassé par des écologistes. C'est assez étonnant et ça se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel avec un berger qui est reconnu comme l'un des meilleurs éleveurs en pré salé de la baie du Mont-Saint-Michel et il est condamné à démonter sa bergerie qui est...
François Cerbonnet. C'est très émouvant et très intéressant comme
histoire
de tragédie de la... de la société française d'aujourd'hui qui perd un peu la tête parfois.
Oui, ouais, ouais, parce qu'il est en parfaite harmonie avec l'écosystème de la baie du Mont-Saint-Michel, mais malgré ça, il est obligé de démonter sa bergerie. Merci à vous, donc, Étienne Jarnel, c'est à lire ce week-end, cette semaine, hein,
bah,
en cette fin de cette
suite,
semaine,
hein,
évidemment, et tout de suite, immédiatement, voilà, c'est ça, dans le coin.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu, c'est tout de suite Françoise Degout, Elisabeth Lévy, Eric Revel, et vos appels comme tous les matins, 0826 300 300, et on revient sur ces règlements de compte entre certains membres du gouvernement.
Oui, bah
cours
oui,
d'école.
Dupond-Moretti et Darmanin, ils ont failli en venir aux mains, selon certains. Et puis même en Conseil des ministres, oh, alors bon, là, c'est plus solennel, c'est ce que nous disait le ministre qui était notre invité ce matin, parce qu'on voulait décrypter
Franck
un
Riester.
Petit peu ça, Franck Riester, puisque donc il y a eu un recadrage entre Elisabeth Borne et Barbara Pompili, par le président lui-même, hein, sur puisque le Barbara Pompili, avec son mouvement, avait salué la décision du Conseil d'État qui a retoqué la réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce que ça signifie, là, ces tensions? Françoise Degout, ensuite Éric Revel et Elisabeth Lévy.
Ça fait
partie de la logique des choses,
c'est
ou pas?
C'est la logique de la dynamique de la défaite. Vous savez, la force va à la force, et puis vous connaissez vae victis, malheur aux vaincus. Donc, quand une majorité encaisse un tel désastre, que en plus cette majorité vient d'horizons si différents, de la gauche, de l'écologie, de la droite, eh bien ça donne ça, hormis, si vous voulez, le véritablement l'antipathie réciproque qu'il y a entre Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, et Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, et puis voilà, Emmanuel Macron n'a pas recadré Barbara Pompili uniquement pour le Conseil d'État et l'assurance chômage. Il est très en colère, Emmanuel Macron, parce que Barbara Pompili, je parlais des personnalités de gauche qui retrouvent finalement à soutient la présidente sortante socialiste contre le Rassemblement National, et je précise...
Ça, c'est en Bourgogne.
En Bourgogne, le scandale absolu, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas ordonné au candidat En Marche de faire le Front Républicain et de se désister. Donc, on est dans quelque chose d'assez logique. Bien sûr, moi, j'aime critiquer ce gouvernement parce que je n'aime pas sa politique, mais la réalité, c'est la logique de la politique. Quand vous êtes dans une telle dynamique de défaite, eh bien, tout le monde a les nerfs à vif, et là, on le voit d'autant plus que c'est une majorité plurielle avec des gens qui viennent de tous horizons.
Ouais, Elisabeth Lévy.
Oui, enfin, c'est pas seulement la logique de la défaite, c'est aussi la logique de ce gouvernement. Et parce que, comme vous l'avez dit, c'est un gouvernement un peu de carpet de lapin, malgré tout. Et donc, chacun a tendance, avant les élections, à revenir un peu à ses premières amours politiques. Simplement, la difficulté, c'est que ça se voit. Avant, ça ne se voyait pas. C'est-à-dire, je suis sûr que dans toutes les équipes gouvernementales, il y a des tiraillements, si vous voulez. Normalement, le président arbitre, le président choisit, et tout le monde s'écrase. Donc ce que je ne sais pas, et peut-être Françoise et Éric vont m'éclairer, c'est est-ce que toute cette pagaille, ça veut dire que le président Macron a perdu son autorité sur son équipe, hein, qu'il n'arrive plus à faire régner l'ordre, ou est-ce que c'est simplement un effet de la médiatisation à outrance de tout, c'est-à-dire que tout ce qui se passe maintenant, on le sait.
Bon, c'est peut-être difficile de savoir précisément, mais Éric Revel.
Bah écoutez, oui, il y a eu un fiasco électoral, c'est indéniable, et en fait on assiste à quoi, à mon sens? Bah chacun est en train de retourner dans son camp, vous voyez. Et d'ailleurs je vais vous faire un décryptage de ce qu'a dit Franck Riester tout à l'heure à votre micro, parce que c'est très éclairant.
Ouais.
Chacun est en train de retourner dans son camp. Bah Darmanin, il rappelle à Xavier Bertrand, on sait jamais, hein, s'il était élu, qu'il est de droite, voilà, et qu'il le soutient. Bon, voilà, Darmanin de droite, il va plutôt vers Xavier Bertrand, en disant, on sait jamais, gars, hein, je suis ton pote et j'ai appelé à voter pour toi. Mmh. Barbara Pompili, bah, elle retourne dans son camp plutôt, évidemment,
à gauche.
Je vous rappelle, par exemple, bon, il se trouve que je l'ai croisée il y a quelques jours à Paris, elle me rappelait qu'elle n'avait pas voté, par exemple, elle avait voté contre le redécoupage des régions, vous voyez, après le fiasco, en disant, moi, je me suis opposé à Hollande, je trouvais que... Oui. Mmh. Donc, chacun retourne dans son camp. Et puis, décryptage de Franck Riester. Génial, l'interview, Patrick. Pourquoi? Mais parce que on est à la fois, je retourne dans mon camp, et on est à la fois dans l'incohérence du moment. Je retourne dans mon camp, c'est la première fois depuis très longtemps que j'entends Franck Riester dire, dans une interview, je suis de droite. C'est la première fois que je l'entends dire. Je suis de droite, hein.
Mais
Xavier, tu m'oublies pas. Je suis de droite. Mais en région Île-de-France, j'ai beau être de droite, je vais quand même appeler à voter pour le candidat de la République en marche contre Valérie Pécresse, qui elle-même est de droite. Mais enfin, Donc c'est du Franck Riester. J'ose sans oser, tout à fait. Vous voyez, je rappelle
c'est du
que je
en marche
droite,
en fait.
Je vais pas appeler. Mais
bah c'est du en marche, du en marche en fait.
Mais
hein,
ça trouble les messages. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Donc chacun regagne son camp. Et en même temps, voilà, on l'emploie à chaque fois. Et en même temps, vous avez un Franck Riester qui dit « Je vais quand même appeler à voter pour le second tour dimanche pour le candidat de La République En Marche. » Mais comment voulez-vous que les électeurs comprennent quelque chose? J'ai l'impression, effectivement, qu'Emmanuel Macron a plus tellement la main sur tout ça.
Françoise de Goye, Elisabeth Lévy, et ensuite un auditeur qui est avec nous.
Je pense que Emmanuel Macron, avec des airs extrêmement détachés, Emmanuel Macron veut se découpler de ce désastre. Mais, malgré tout ce qu'on peut nous faire croire, ça n'existe pas un président candidat à sa succession qui peut se départir de tels désastres électoraux, ou alors on m'explique que le soleil désormais se lève à l'ouest. On peut raconter n'importe quoi, ça n'existe pas. Emmanuel Macron prend des airs très détendus, va inaugurer la Samaritaine, fait la fête de la musique. La réalité, c'est qu'il est tétanisé par le résultat de ces élections. Mais c'est évident, et les conseillers le disent, il réfléchit. Tout est en train de s'écrouler, toute l'illusion, éventuellement d'un second tour avec Le Pen. La droite est super forte.
Enfin, s'écrouler, ça faisait les têtes un peu fortes.
Mais moi, je vous assure que quand vous voyez les résultats, les blocs qui se dessinent, moi, je suis Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec les résultats que j'ai, je me dis, ouïa, il faut changer de stratégie pour 2022.
Hein. Elisabeth Lévy.
Oui, alors le soleil se lève à l'ouest et Budapest est en Roumanie. Mais ça m'a beaucoup fait rire.
Ah oui.
Et en même temps, quand même.
Attendez, alors je précise pour les auditeurs que ce sont des supporters qui sont trompés. Hein. Au lieu d'aller à Budapest, ils sont allés à Bucarest. Ouais, voilà.
Ils sont en avance pour le
français. Ça m'a un peu laissé songeuse, pardon, sur l'enseignement de la géographie dans notre pays, mais passons. Ça va au-delà de ce que dit Françoise sur le moment, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, dans le fond, il y avait une sorte de logique politique qui était de rassembler des gens qui avaient l'air de penser exactement pareil, mais il n'a pas réussi à créer le macronisme, tout simplement.
C'est vrai.
Puisque, comme vous le dites, chacun revient à ses premières amours, et dans le fond, de macronisme, on ne voit point. On ne sait pas ce que c'est. Et ça, je pense que c'est un échec idéologique au-delà de l'échec politique. Simplement, moi, je suis un peu dubitative quant à ce retour que je vois bien, je le constate comme vous, du clivage droite-gauche, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait plus de signification qu'il y a 5 ans. Et je pense qu'on risque de repartir dans les vieux errements.
Jacques au 0826 300 300. Hein.
Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Bonjour. Que pensez-vous de ce débat? Est-ce qu'il est, on revient progressivement vers un clivage droite-gauche ou pas?
Alors, ce débat, pour moi, citoyen, Étant gilet jaune, je dis aux gens, allons voter, parce que nous devons amener à construire un autre monde, et pour cela, il faut participer, et surtout avertir nos futurs élus que nous ne leur faisons pas un chèque en blanc, que nous serons vigilants. Et pour préciser les choses clairement sur notre département de la Manche, nous avons des affaires qui sont en justice actuellement sur du gaspillage d'argent public. Mmh. Et ça, c'est important. Ouais. Et donc, faire comprendre à nos élus que le citoyen doit revenir au centre des débats et doit reprendre une place sérieuse. Mais je dis sérieux parce que, même étant gilet jaune, nous avons fait des ateliers, nous avons construit des choses et nous avons des propositions à faire. Ouais. Donc, c'est très important parce que sur le retoquage de la
réforme de l'assurance chômage, par le Conseil d'État.
C'est pas du tout le moment, il y a plein de misères, il y a plein de choses qui se passent actuellement, mais que les élus ouvrent les yeux et reviennent les pieds sur terre.
Bon, merci. Oui, merci, Jacques, d'avoir réagi. 0826 300 300. À vous aussi, Éric Revel, Françoise de Goye, Elisabeth Lévy. Puisque vous parliez des gilets jaunes et de la démocratie en règle générale, nous allons en parler tout à l'heure avec Denis Jacquet qui sera avec nous. C'est un entrepreneur. Il dit réapprenons la vertu de la désobéissance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que la démocratie, ce n'est pas de subir l'injustice parce qu'elle est imposée par un pouvoir élus, c'est aussi de s'assurer que ce pouvoir reste légitime. Particulièrement intéressant, nous allons voir ça avec lui, avec son livre. Cécile, il sera avec nous tout à l'heure à 9h15.
Oui, hein. Covid, le début de la peur, la fin d'une démocratie aux éditions Erol sera avec nous dans quelques instants, 0826 300 300, vous attend
oui.
Au standard.
Oui, et puis évidemment, avant cela aussi, on va revenir sur le football, parce qu'il y a eu ce match hier soir, il y a cette qualification d'équipe de France. On aura la vice-présidente de la Fédération française de football, Brigitte Henriques, qui est aussi candidate et elle est quasiment favorite pour le comité national olympique. Elle sera avec nous dans quelques minutes. Nous avions reçu Patrice Martin. On recevra aussi les autres candidats. Cette élection qui aura lieu dans quelques jours. Elle sera avec nous. C'est une ancienne joueuse de football.
Oui, absolument.
Comme vous, Cécile.
Oui,
elle, professionnelle, je crois.
Oui,
vous, un peu moins.
Meilleure que moi.
Ouais.
Allez, on revient dans un instant. Tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, merci d'être avec nous, la suite du petit déjeuner de l'actu. Ce matin, nous recevons Brigitte Henriques, qui est vice-présidente de la Fédération française de football et l'une des quatre candidates à la présidence du Comité national olympique et sportif français. Merci d'être avec nous.
Bonjour Brigitte Henriques. On rappelle hein, les autres candidats, Thierry Rey, Emmanuel Bonnet-Ouladji et puis Patrice Martin. Un mot, parce que vous êtes vice-présidente quand même de la Fédération française de football. L'équipe de France masculine a joué en fait hier soir. Elle est dans une bonne dynamique ou pas, cette équipe, selon vous ?
Écoutez, on vient de terminer premier de notre groupe. On est qualifié pour la suite. Les coupes, les championnats d'Europe comme ça, comme les Coupes du Monde, c'est des marathons. Je sais qu'on va encore monter en puissance, mais l'objectif est atteint. Déjà, on est premier du groupe.
Oui, parce que je rappelle et que vous, continue. Vous êtes une ancienne joueuse. J'ai dit professionnelle. Vous n'étiez pas professionnelle parce qu'à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années. Voilà.
C'était tout comme. Énormément de sélections.
Vous étiez en équipe de France, mais c'est vrai que le football féminin avait quand même beaucoup de mal. Quoi. Et aujourd'hui, il est un petit peu mieux structuré.
Il est beaucoup plus reconnu, puisque les barrières culturelles sont tombées, il faut le dire comme ça. On est passé de 50 000 à 210 000 licenciés depuis 2011. Voilà, vous vous rappelez, on vous l'avait dit, 13 millions de téléspectateurs pendant la Coupe du Monde 2019, des stades remplis pendant un mois. Ça a vraiment changé. Après, voilà, il y a encore du chemin à faire pour qu'on puisse aussi, sur la D1 féminine, remplir nos stades et surtout, en fait, que ça génère une économie pour que les clubs investissent.
Ouais. Est-ce qu'il faut les pousser, justement, ces clubs ? Est-ce qu'il faut les motiver ? Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait, pour investir sur des filles ?
Alors, en fait, moi, je me réjouis qu'avec la politique de Noël Le Graët en 2011, on n'ait rien imposé à personne. Donc, ils ont tous créé vraiment des sections féminines. Ils ont vraiment enclenché le pas pour pouvoir avoir des clubs professionnels à l'intérieur de la D1 Arkema. Et maintenant, voilà, on a la deuxième, comment dire, vitesse à enclencher. Tout est en place là, sur la feuille de route depuis notre élection en mars dernier.
Oui. Alors, dans un mois, il y aura le début des Jeux Olympiques à Tokyo. Finalement, ils étaient, à un moment donné, il y avait du suspense. Là, c'est officiel, ils sont maintenus. Vous espérez être présidente du Comité National Olympique à cette occasion, comme les autres candidats. Pourquoi vous vous lancez dans cette course donc, à la présidence et vous voulez être à la tête du mouvement olympique français ?
Parce que ça fait 30 ans que je suis complètement passionné de sport, c'est ce qui m'a construit. Je n'ai pas fait que du foot, en fait. J'étais aussi professeur agrégé de PS, j'ai enseigné toutes les disciplines. Et puis surtout parce que ça fait 4 ans que je suis vice-présidente du Comité National Olympique Sportif Français. Ouais. Donc j'ai déjà vraiment travaillé avec l'ensemble des 108 fédérations et surtout été, comme on dit, défendre le biftec, en fait, pour que notre sport soit beaucoup plus reconnu dans le débat public. Moi, je dis, on n'a pas des choses à faire pour le sport. Par le sport, en fait, on peut vraiment améliorer la cohésion sociale dans notre société qui est quand même bien fracturée. Sur les rapports à l'autorité, c'est pareil. Si on a une culture sportive dès le plus jeune âge et qu'on emmène de plus en plus de pratiquants dans nos clubs, voilà, on va vraiment contribuer à une société meilleure. Et je crois qu'on en a bien besoin.
Oui. Est-ce que le regard d'une femme apporte quelque chose, finalement, de nouveau ? Parce qu'on a peut-être pas forcément le même regard entre un homme et une femme. Est-ce que vous, on est plus dans l'humain, par exemple, et dans le lien ?
Écoutez, en tout cas, ce que je sais, c'est que là, les présidents avec qui on a co-construit ce programme-là, ils sont une quarantaine depuis des mois, hein, depuis février, en fait, on travaille sur ça. C'est ce qu'ils me disent régulièrement. Ils ont envie un peu de ce renouveau, de cette
bienveillance, voilà, par exemple.
Bienveillance, effectivement. Ouais. Et ce projet-là, en fait, j'en suis très fière parce que j'ai dit, comme vous le dites très bien, Cécile, j'ai envie qu'on remette l'humain au cœur du dispositif. Et je pense que pour convaincre, pour une idée, pour un projet, il faut vraiment impliquer dès le début les personnes qu'elles se sentent prises en considération, qu'on puisse les écouter. C'est ce que je fais depuis 4 mois. J'ai écouté ces 108 fédérations et je peux vous dire que entre la fédération de balle au tambourin, la spéléologie, le jeu de longue paume, si vous saviez tout
qu'est-ce
ce qu'on
qu'est-ce qu'elles veulent les fédérations. Est-ce que bon, alors là, il y a eu une année particulière avec le Covid, bien sûr, elles ont toutes été ballottées. Mais qu'est-ce qu'elles veulent fondamentalement aujourd'hui?
Il y a une vraie attente, très sincèrement, de deux choses. La première, que le sport soit beaucoup plus reconnu dans notre société. Aujourd'hui, voilà, on ne sait pas véritablement à quoi servent les fédérations, on ne sait pas véritablement à quoi sert le Comité national olympique sportif. On voit bien que le budget du gouvernement pour le sport, il est quand même infime. Il y a vraiment besoin de remobiliser tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les fédérations, c'est elles qui accompagnent les clubs, les licenciés. Mmh. Je le répète, hein, 150 000, 155 000 associations sportives, 3,5 millions de bénévoles. Vous vous rendez compte, les bénévoles?
Il y a un problème de bénévolat aujourd'hui dans les clubs ou pas?
En fait, 3,5 millions de bénévoles, si vous mesurez l'impact que ça a en termes d'éducation, en termes d'investissement, de mouvement associatif, on a besoin de les reconnaître davantage. Ouais. Et c'est pour ça que moi, la deuxième chose importante dans mon programme, c'est le service aux fédérations. On doit les accompagner pour qu'on fasse plein de choses pour les clubs. Je vous donne un exemple. Mmh. Le gouvernement vient de donner 100 millions d'euros pour le passeport pour que chaque personne éligible avec la CAF ait 50 euros de réduction. Ça fait 5 millions de jeunes qui peuvent le faire. La première mesure que je mettrai en place si je suis élu, c'est d'accompagner l'ensemble des fédérations à ce que tous les clubs aient la création du compte asso. Le compte asso, c'est des démarches administratives assez compliquées. Si on ne les aide pas à ça, ça sera hyper compliqué pour les licenciés de pouvoir se faire rembourser les 50 euros. Ouais. Donc c'est un exemple très concret.
Est-ce que justement, après la crise, hein, tout le monde parle du sport et l'importance justement du sport dans le quotidien et au plus jeune âge, est-ce que ça aussi, il faut le travailler et l'accélérer?
Oui, il faut l'accélérer. Moi, je parle de culture sportive. On parlait tout à l'heure de professionnalisme. Quand j'étais joueuse, les joueuses américaines, moi, je rêvais d'être aux États-Unis simplement pour la culture sportive qu'il y a là-bas, que pour ça. Et je me dis, j'adorerais vraiment que dans notre pays, en France, on ait cette culture sportive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a déjà les 30 minutes le matin qui viennent d'être mises en place par l'éducation nationale. C'est déjà bien. Il faut aller plus loin. Il faut qu'il y ait une association sportive dans chaque école primaire. Il faut que dans les universités, on permette aux jeunes aussi de pouvoir avoir du temps pour faire du sport. Et voilà, ça passe par là. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que dans les clubs, c'est mieux pratiquer. Et là, on a un gros boulot vraiment pour donner envie de venir dans les clubs. Pourquoi? Parce que les éducateurs, les entraîneurs, ils sont formés. Et quand vous apprenez les règles, je l'ai dit, le rapport à l'autorité dans notre société, c'est important. Mm-hmm. Donc tout ça, il faut faire revenir tout le monde dans les clubs. Et en tout cas, moi, je suis prête à avoir une grande campagne de mobilisation de l'ensemble de nos clubs et de nos bénévoles.
Et la culture sportive aussi à l'école. Donc vous avez parlé des écoles primaires, mais après, il y a une découverte ou pas au collège, au lycée, où on se dit, bon, bah oui, c'est... le sport, on n'en fait pas, on y va, on sèche. C'est pas forcément fondamental tel que c'est enseigné aujourd'hui.
Non, et c'est surtout que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ça devienne un véritable mode de vie. Et c'est vrai que pour ça, on a vraiment besoin aussi d'avoir des rôles modèles. On en a plein, vous savez, on parle des champions olympiques et je m'en réjouis. Et à Tokyo, vraiment, hier, c'était la journée olympique, vous savez. On était tous derrière les Bleus, cette équipe de France, avec toutes les disciplines qui va partir dans un mois à Tokyo. Mais il y a aussi plein de champions. Si je vous disais qu'en polo de basque, on est champion du monde, champion d'Europe des clubs, et on a plein de champions dans toutes les disciplines. Ça, c'est des vrais rôles modèles. Pour être champion, vous l'avez dit, moi, j'ai pas été professionnel, mais je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine.
Ouais.
Je devais coupler ça avec mon métier en même temps. Ça apprend vraiment le travail, et sur ça, la reconnaissance du travail, après, quand vous gagnez, vous êtes reconnu.
Et sur
simplement.
L'école, parce que vous avez enseigné vous-même. Est-ce que c'est bien enseigné l'éducation physique et sportive à l'école? Moi, je vois des franchement, on peut tous dire, parlons vrai sur Sud Radio, est-ce que ça sert à quelque chose, parfois, d'avoir de l'éducation physique et sportive à 8h du matin pour des gamins qui auront une journée où ils seront en transpiration? C'est mal organisé, non, à l'école, non?
C'est un peu l'enfant pauvre.
Ça sent un peu le vécu, mais
écoutez,
c'est vrai.
Vous savez quoi, en tout cas, je vais vous dire, moi, quand je commence ma journée en allant faire du sport à 7h du matin, j'ai pas la même journée que quand j'en fais pas. Donc
non, mais
c'est la première chose. Alors, vous avez parlé de 8h du matin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en tant que professeur d'éducation physique et sportive, bien sûr que le sport, il est bien enseigné. Après, la place qu'il a, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation physique et sportive, mais permettons aussi qu'il n'y ait pas cours l'après-midi pour qu'on puisse faire du sport, mais pas que du sport. Moi, je suis aussi pour qu'il y ait de la culture. Ça se passe comme ça en Allemagne. Donc moi, j'ai envie qu'on aille revisiter ça de l'école primaire, je vous dis, et aussi à l'université. Et au collège et au lycée, en fait, il y a déjà 3 heures qui sont, vous savez, avec l'UNSS, il y a le sport du mercredi après-midi ou pour les lycées sur d'autres créneaux. Voilà, il y a énormément de jeunes qui font des compétitions et surtout qui sont engagés partagée avec les jeunes officiels qui organisent les compétitions. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur le collège et lycée, mais allons plus loin sur l'école primaire et l'université.
Merci beaucoup.
Merci, merci mille Brigitte fois. Henriques. Donc, je rappelle que vous êtes candidate. Le vote a lieu dans la semaine prochaine, hein, c'est ça.
Mardi.
Et là, c'est pas comme les régionales, premier tour, deuxième tour, huit jours après,
on fait la campagne,
c'est direct. Hein, c'est ça. Qui vote d'ailleurs?
Les 108 fédérations.
Toutes les fédérations.
Bon,
voilà, c'est ça.
Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Et dans un instant, on va vous revenir avec Denis Jacquet, un peu en colère. C'est un portrait sans concession, finalement, d'une France malmenée en cette période de crise. C'est aux éditions Erol, Covid, le début de la peur, la fin d'une démocratie. Il sera avec nous dans un instant, 0826 300 300, tout de suite.